Le Raku, ça vient d'une famille, c'est la famille Raku, donc là on est à la 16e génération, si je me trompe pas. Atsundo, il a mon âge, il vient de reprendre le nom de la famille. Il prend la suite en fait de son père. La transmission a été faite, ça y est, il y a peu de temps là. Et donc cette famille ne travaille que à la main. Il travaille sans tour, sans moule, c'est uniquement à la main. Donc quasiment sans outils. Et la particularité après, c'est la cuisson, c'est ça qui fait un peu la... Enfin, il y a aussi la façon de faire, de modeler, qui fait la signature, mais il y a aussi la cuisson où c'est cuit au charbon. Et avec quasiment une pièce par cuisson, quoi, une pièce par four. Et c'est justement des objets, quasiment, pas exclusivement, mais quasiment des objets des chawans, donc pour la cérémonie du thé. Je m'appelle Émilie Pédron et je suis céramiste. J'arrive pas à dire que je suis potière, quoi. J'arrive pas. Et je trouve que céramiste, je m'y reconnais mieux parce que je trouve ça plus ouvert, je trouve ça plus expérimental, moins traditionnel, où je fais tout potier. Il y a un côté où faire tout le temps la même chose aussi, en série un peu. Être un peu enfermé dans son métier, alors que céramiste, pour moi, il y a plus l'idée de la recherche, du matériau, parler du matériau, comprendre le matériau. J'ai toujours eu, d'une part, on va dire, une orientation, des inspirations liées au Japon, avec des choses plutôt en grès, plutôt brutes, et puis avec des imperfections, avec la place pour l'imperfection. Et d'autres objets plutôt en porcelaine, moulés, avec une distanciation par rapport à la production, quoi. Et pareil, autant les objets d'inspiration japonaise, c'est plutôt des objets usuels, donc avec lesquels on va être en contact. Autant les objets plutôt en porcelaine, c'est plutôt des objets décoratifs ou d'appart. Mais c'est vrai que moi, dans mon travail, il y a beaucoup l'idée de la rencontre. Et la rencontre qui va créer quelque chose, quoi. Donc on sait aussi laisser la place à ce qui vient, pas être dans le contrôle à 100%, tu vois. Le point de départ, c'est ma résidence à la Villa Kujoyama. J'ai beaucoup collaboré avec un céramiste qui s'appelle Shiro Shimizu, et qui est lui de Kyoto, que j'avais rencontré par hasard, entre guillemets, en France en 2010. Et en fait, j'ai compris, je pense, au moins un an après l'avoir rencontré, que en fait, c'était le petit-fils d'un céramiste que j'adore, qui s'appelle Shimizu Uichi. Et enfin voilà, c'est le céramiste japonais que j'adore. Et il se trouve que j'ai rencontré par hasard, entre guillemets, son petit-fils à Paris. Lui, sa particularité, en fait, c'est d'aller récolter des argiles à Kyoto et autour de Kyoto, sachant que c'est pas une ville qui est connue pour ça traditionnellement, contrairement à d'autres villes au Japon. Et lui, dès qu'il y a un chantier, dès qu'il y a des travaux, il regarde s'il y a des argiles plastiques exploitables et il récupère. Et son parti pris, c'est d'être à l'écoute de l'argile et de se laisser guider par l'argile. C'est l'argile quasiment qui va définir la forme. C'est pas lui qui va décider de la forme en amont. Il va rencontrer une argile et il va se mettre à l'écoute. Et suivant ce qu'il entend, il va se laisser guider et ça va le mener à faire telle ou telle forme. Donc moi, ça me parlait complètement, quoi. Enfin, ça m'a énormément parlé quand j'ai pris connaissance de cette posture, quoi. Enfin, de ce parti pris qu'il a. Et du coup, j'ai eu envie de faire ça avec lui, d'aller chercher de l'argile autour du Mont Kujo, enfin sur le Mont Kujo, donc autour de la Villa Kujoyama. Je lui ai proposé qu'on fasse un projet ensemble pour la Nuit Blanche, parce qu'il y a aussi la Nuit Blanche à Kyoto. Donc on allait chercher de la terre, il m'a montré comment la préparer, parce qu'il y a plusieurs techniques. Et on a fait des bols à thé pour proposer, pendant la Nuit Blanche, faire une cérémonie de thé. Que les participants puissent boire dans des bols faits avec cette argile. L'idée, c'était d'à peine cuire les pièces pour que on ait l'impression de boire dans la terre à peine cueillie, on va dire. Donc c'est Derrick, le maître de thé, et Chiro qui se sont occupés de tout. Et Derrick a eu l'idée de faire un sol en terre battue. Pendant la nuit blanche, les gens qui passaient pouvaient boire dans ces bols. Et à l'issue de la cérémonie, certaines pièces se sont délitées. Et du coup, elles retournaient à la terre, quoi. Elles retournaient sur ce sol en terre battue. Et ensuite, bah, j'ai eu l'opportunité d'aller en résidence à Limoges, donc à l'école d'art de Limoges. Donc là, c'est là où on ouvre une autre porte. Là, on est à Limoges, donc c'est la porcelaine de Limoges. Donc c'est un matériau où on est complètement dans le contrôle. Enfin, tu vois, où l'image de la porcelaine, c'est la perfection, la blancheur. Et en fait, et donc, quand j'ai proposé ma candidature, l'idée, c'était de prendre comme point de départ un des bols qu'on avait fait avec Chiro, avec l'argile du Mont Cougeau, et que lui avait modelé, et que moi, j'avais émaillé. Voilà, donc il y avait déjà une pièce qui était avec une identité forte et avec une histoire, faite sur un territoire particulier, voilà. Et là, l'idée, c'était de le confronter à un autre territoire et à un autre contexte. Et moi, ce que je voulais, c'était scanner cet objet et le reproduire suivant les technologies du numérique. Et donc, j'avais cette forme-là qui venait de Kyoto. Et je me suis dit, ouais, mais il manque une autre forme. Il faut que j'ai une autre forme qui serait la forme Limoges. Comme ça, on serait vraiment dans un dialogue. Et du coup, j'ai dessiné une forme que j'ai fait en plâtre sur le tour. Du coup, j'avais deux modèles, pareil, faits différemment. Une forme modelée avec une argile récoltée dans la nature et une autre faite au tour à plâtre, donc hyper dessinée. Donc, qui parlait aussi de ces deux territoires. Donc, j'avais mes deux balises. Et du coup, mon propos, c'était entre ces deux balises, qu'est-ce qui se passe ? Et comment ça se croise, comment ça se rencontre. Et donc après, bah, je suis revenue dans mon atelier en Bretagne, ici. Je me suis dit, bah, je vais aller chercher des argiles. J'ai cherché des argiles autour de la maison, quoi. Enfin, j'ai trouvé deux endroits forts, qui sont une carrière de kaolin à Quessois, donc c'est près de Saint-Brieuc. Qui sont des sites complètement hallucinants en termes d'échelle, où il y a plus des. Enfin, tu es dans des échelles où tu n'as plus de repères connus, on va dire ça comme ça, où tu as des matières premières à perte de vue et puis des quantités, c'est complètement démesuré. Mais d'aller dans une carrière de kaolin, il y a plein de qualités de kaolin, il y a plein de granulométrie, il y a des couleurs, tu vois, il y a des oxydes qui sont présents naturellement, etc. Et du coup, c'est hyper riche au niveau de la matière, c'est merveilleux. Et l'autre site, c'est la plage la plus près de chez moi, quoi, à Bréhec. Où il y a un site géologique très particulier, pareil, qui est très ancien, qu'on appelle le Petit Colorado, parce que ça ressemble au Colorado, en fait, aux États-Unis. Et il y a des roches mauves, enfin, il y a des oxydes aussi très particuliers, enfin, il y a des. C'est hyper beau comme endroit, tu peux passer des heures à contempler, c'est magnifique. Et en fait, j'ai trouvé de l'argile là-bas. Une argile très plastique, tu vois, très malléable et avec des couleurs hallucinantes. Fin... Alors j'essaye de vraiment sauver le maximum quand même. Et après, ouais, y a quand même un tri qui se fait. Ben après, il y a plusieurs informations. Moi, il faut que la matière et la forme me conviennent ensemble. Tu vois. Là, tu vois, c'est la forme qui ne me plaît pas. Et la matière me plaît. Parce que que j'essaye de pas trop jeter non plus. Enfin, tu vois, j'essaye de faire les choses en conscience, c'est-à-dire de faire de la recherche, ok, mais d'avoir la conscience du matériau et de pas surjeter, surconsommer, tu vois.